Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette réunion, pour un petit peu ce rendez-vous qui commence à être habituel pour chacune et chacun. Nous, on est peut-être plusieurs du monde francophone, peut-être même au-delà, mais en tout cas, bienvenue à ce cours. Alors, il y a 2 semaines, nous avions le sujet sur Jésus, avant cela, sur Dieu. Et ce soir, ce sera sur le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais juste revenir en arrière sur cette présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai trouvée très intéressante sur Jésus en utilisant la théologie systématique. On n'a pas l'habitude peut-être d'entendre ça. En tout cas, moi, je n'avais pas trop l'habitude et j'en ai beaucoup profité. C'est pour moi l'occasion de dire aussi que si vous avez manqué des choses, vous avez manqué la session, vous désirez réécouter. Tout cela est disponible sur le site. Usez de cette possibilité et sur un sujet aussi fondamental, ça me semble utile de rappeler ça encore ce soir. Voilà, sur Jésus maintenant et après le Saint-Esprit, sur Jésus, juste une petite expérience. Samedi, nous étions avec un groupe d'amis dans la rue pour l'évangélisation et un homme nous a dit, j'ai lu toute la Bible lorsque j'étais en prison. Et il nous a dit, mais vous savez, je ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Alors, vous savez, quand vous êtes interpellé comme ça, d'abord, on avait eu la présentation de Gilles, et puis, ça tourne dans la tête, et puis vous essayez de dire, mais comment la Bible aussi, et quel verset peut le mieux démontrer que Jésus est Fils de Dieu? Alors, moi, j'ai utilisé 2 versets de Jean 3, c'est ceux qui me sont venus en tête. Après, il y en a plein d'autres. Et ça remet aussi l'importance d'avoir ces cours sur les fondements pour qui que ce soit et pour nous-mêmes, mais aussi, vous voyez, pour témoigner. Je vous incite aussi à le faire parce que vous avez cette question, vous êtes stimulé dans votre foi et vous commencez aussi à rechercher dans la parole de Dieu qui est ce Fils de Dieu. Voilà, juste une petite histoire, une autre petite anecdote aussi, cette fois sur le sujet de ce soir. Le Saint-Esprit. Une collègue, on était un peu surchargés et elle m'a dit à un moment donné, mais écoute, c'est pas le Saint-Esprit qui va faire ton travail. Alors vous voyez, même dans des gens qui croient pas, elle a été élevée catholique, elle croit pas, elle est pas dans si vous voulez, dans la pratique du catholicisme. Mais vous voyez que le Saint-Esprit, même dans un cadre quotidien, peut être évoqué par des gens qui croient pas forcément. Et finalement, j'ai regardé, vous savez, le christianisme pour les nuls. Enfin, il y a le Nouveau Testament écrit par Éric Donimal et j'ai vu 10 points sur Jésus, le sujet qu'on a déjà traité, et rien sur le Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que ce soir, je me réjouissais d'autant plus qu'on aborde ce thème. Dans les églises, parfois aussi, il y a un manque de connaissances, peut-être vraiment sur cette personne de l'Esprit. Et donc, ça sera une très grande joie de passer en revue ce sujet. Avant cela, et avant de passer la parole à Gilles, eh bien, je vais remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Dieu et Père, merci parce qu'on a pu recevoir quelque chose. D'abord, ce sujet Dieu, ensuite Jésus, et ensuite cette troisième personne de la Trinité dont Gilles nous a déjà un tout petit peu parlé il y a 2 semaines. Oui, Dieu et Père, que vraiment nous puissions comprendre et croire vraiment aussi dans ce rôle de l'esprit, ce rôle et cette personne de l'esprit. Et Dieu Père, guide Gilles ainsi dans toutes ses paroles, dans ce qu'il a préparé. Seigneur, bénis-le encore et ouvre nos cœurs à chacune et à chacun alors que nous écoutons. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci.
Merci beaucoup, Antoine. Merci pour cette présentation aussi. Oui, c'est vrai que concernant le Saint-Esprit, hein, on est comme un peu partagé entre, je dirais, porter une attention qui va au-delà de la Bible ou alors complètement négliger et puis ne pas accorder ou presque d'attention à la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment important qu'on ait une vision biblique, équilibrée de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, le sujet étudié cette semaine, c'est la doctrine de l'Esprit de Dieu. Et à nouveau, cette semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir les notes de l'étudiant. Elles sont assez particulières aussi, les notes cette fois-ci. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets entre parenthèses. J'ai comme voulu rassembler toutes les données bibliques sur le Saint-Esprit et classer ça en différents domaines. Mais je crois qu'à la fin et après la présentation, pour plus tard, disons, vous profiterez bien à la fois du PowerPoint et puis des notes. Et je trouve qu'elles travaillent bien ensemble, en fait, ces deux présentations, le PowerPoint et les notes de l'étudiant. Mais il n'y a pas d'espace à remplir, là, à nouveau, cette fois-ci. Je veux plutôt vous présenter ce que j'ai découvert, en fait, sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans une étude qui était vraiment, progressive à travers toute la révélation de Dieu. Et puis j'ai essayé de dégager, voir tout ce qui était dit du Saint-Esprit. Voilà ce que nous allons étudier cette semaine. Et d'abord, je voudrais commencer avec un graphique qui va nous aider à comprendre franchement comment on peut voir la relation entre les trois personnes de la Trinité. Donc, on va regarder ce petit graphique. Il y a d'autres graphiques qui existent. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que j'enseigne sur la pneumatologie, c'est-à-dire la doctrine du pneuma, de l'esprit, dans le cadre de Biblos. On a déjà fait dans le passé. Je pense que j'ai fait même deux présentations différentes concernant le Saint-Esprit. Là, c'est une troisième et je voulais aussi l'aborder d'une façon nouvelle et qui, en même temps, serait un enrichissement pour moi parce que, je vous avoue, j'ai découvert des choses que je vais vous partager en cours de route. Et c'est ça, hein, la Bible, on n'arrive jamais au bout. Il y a tout le temps des choses à découvrir. Et puis, je me rappelle d'un graphique, entre autres, de la Trinité, où on voit la relation entre les trois personnes. Et au centre du graphique, on voit que chaque personne de la Trinité est Dieu. Et puis, à l'extérieur du graphique, on voit la relation entre les personnes. Par exemple, ce graphique-là disait, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, etc., comme le Fils n'est pas l'Esprit non plus, en ce sens que les trois ont une personnalité distincte et sont une personne distincte. Mais les trois sont Dieu. Alors, voilà. D'un point de vue logique, c'est incompréhensible pour nous. L'esprit humain ne peut pas saisir la Trinité. Si jamais vous voulez voir le graphique dont je parle, il n'est pas dans le PowerPoint maintenant, mais il est dans le livre Introduction à la théologie de Paul Hens. Donc, on a déjà même offert, il me semble, cet ouvrage aux étudiants de Biblos. Et si vous allez dans le chapitre qui traite de la pneumatologie, donc la doctrine de l'esprit, vous allez trouver ce graphique que je vous parle qui montre la relation. Ici, ce que j'ai voulu mettre, en fait, c'est qu'on voit que les trois personnes de la Trinité sont distinctes de par les trois cercles, mais qu'il y a, si je peux le dire comme ça, une zone commune entre chaque personne de la Trinité. Donc, on voit la zone 1, c'est la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Dans la partie 2, entre le Fils et le Saint-Esprit, et vice-versa, bien sûr, le Saint-Esprit et le Fils. 3, c'est entre le Père et l'Esprit. Et 4, ben, c'est les trois personnes de la Trinité se retrouvent ensemble, évoquées ensemble dans certains passages. Pour qu'on voit donc sous forme de texte ces zones, nous avons la partie 1. Eh bien, par exemple, le Seigneur Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, ça évoque la relation entre le Père et le Fils dans la Trinité. Ensuite, entre le Fils et l'Esprit, nous lisons, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Intéressant, hein, comment c'est dit. On voit dans d'autres passages, l'Épître aux Romains, par exemple, que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, mais spécifiquement dans les Galates 4-6, c'est l'Esprit de son Fils. Et on a aussi, pour la partie 3, ben, la relation entre le Père et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. On a le Saint-Esprit, on a l'Esprit du Fils et aussi l'Esprit de Christ hein, dans certains passages. Et on a l'Esprit du Père aussi ou de votre Père. Il n'y a pas trois ou quatre esprits, c'est toujours le même Saint-Esprit, mais qui est présenté sous un angle différent de par sa relation avec l'une ou l'autre des personnes de la Trinité. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça a du sens, mais logiquement, c'est inexplicable quelque part. Et puis, moi, ça me va. Je crois que la foi saisit ce qui n'est pas forcément irrationnel. Hein. On ne dit pas que c'est irrationnel, mais ce qui n'est peut-être pas logique dans l'esprit humain de dire il y a un seul Dieu, il y a trois personnes qui sont Dieu. Oui, ça pose un petit problème, mais pour la foi, ce n'est pas du tout un problème. Et puis, on le croit. Et au cœur de la relation trinitaire, ben, on aurait pu citer la bénédiction de Paul dans 2 Corinthiens 13, par exemple. Mais j'ai choisi ce texte dans Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On peut dire seulement un seul nom pour ces trois personnes, parce que le nom représente la personne et chaque personne est divine. Donc voilà, c'est au nom de Dieu, quoi. Mais de Dieu manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il y a énormément de discussions dans les milieux théologiques, dans les écoles bibliques et même parfois dans les églises locales et entre les chrétiens au sujet de la relation Père, Fils et Esprit, au sujet de leur rôle en fait. Et à savoir, est-ce que le Fils, par exemple, est inférieur au Père? Est-ce que l'Esprit-Saint, lui, est inférieur au Père et au Fils? Ben, d'une certaine manière, on pourrait répondre oui. Le Fils est inférieur au Père, dans un sens, mais pas dans sa nature, parce qu'il est pleinement Dieu, le Fils. Même chose pour l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est pleinement Dieu. Donc, dans son essence, dans sa nature même, le Saint-Esprit n'est pas inférieur ni au Fils ni au Père. Mais dans leur rôle particulier, on peut l'exprimer avec ce mot. Pour moi, ce n'est pas le meilleur terme de dire inférieur. Je préfère dire simplement différent. Il a un rôle différent. Mais c'est vrai que le rôle de l'Esprit-Saint n'est pas et n'est jamais, à ma connaissance, à ce jour, d'être de l'avant, n'est pas d'être mis de l'avant, n'est pas d'être adoré, n'est pas d'être prié ou loué. Jusqu'à ce jour, moi, je n'ai pas trouvé de données bibliques convaincantes qui puissent m'amener à adorer l'Esprit, par exemple, comme je peux adorer et le Père et le Fils. Alors là, par contre, là, l'évidence biblique est dominante. On voit vraiment qu'on peut adorer le Père, on peut adorer le Fils, on peut prier le Père, on peut prier le Fils, on peut glorifier le Père et glorifier le Fils, mais on ne peut pas en dire autant, à ma connaissance jusqu'à ce jour, au sujet du Saint-Esprit. Je crois que parfois, pour réagir à ceux qui mettent trop d'accent sur le Saint-Esprit, parfois, peut-être, on est allé trop loin au point même de presque nier pratiquement la divinité de l'Esprit. On ne le fait pas verbalement, ouvertement, mais comme si, franchement, on l'écartait totalement de toute équation, de toute vie d'Église, etc. Donc, il a sa place, il est important, bien entendu, il est pleinement Dieu, le Saint-Esprit, mais je crois que si on reste dans les données bibliques, ça va être difficile de me convaincre du contraire qu'il a un rôle effacé. Mais voilà, pour moi, avoir un rôle effacé n'est pas du tout de diminuer ou d'offenser le Saint-Esprit dans la Trinité. C'est simplement que d'honorer Dieu dans la manière dont il s'est révélé quant à la fonction de chaque personne de la Trinité. Il y a tellement de questions à ce sujet que on trouve toujours le moyen d'en faire des débats théologiques interminables qui finissent en disputes, etc. Moi, je trouve ça dommage. Je pense, entre autres, là, à l'éternité du Fils et au fait qu'il soit Fils éternel. Eh bien, on a trouvé le moyen de transformer ce sujet merveilleux en un débat, à savoir, par exemple, est-ce que le Fils est éternellement soumis au Père ou alors il va être soumis que dans l'incarnation ou peut-être qu'il est soumis encore maintenant, mais un jour ne le sera plus. Franchement, je crois qu'avec ce qu'on a comme données bibliques, on peut facilement, aisément, sans offenser la Trinité ou le Dieu trois fois saint, on peut dire le Fils est soumis au Père et il le sera toujours, peut-être même éternellement, parce qu'en réalité, ça ne touche pas du tout à sa nature. Ça fait simplement que mettre l'accent sur son rôle particulier dans la Trinité, même chose pour l'Esprit. L'Esprit n'est pas là pour recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la prière, mais plutôt il est là pour diriger tout cela vers le Père et vers le Fils. Quelqu'un a déjà dit, le Saint-Esprit est christocentrique d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'il porte toute l'attention à Christ. D'ailleurs, c'est même ce que Jésus a dit lorsqu'il a révélé que le Saint-Esprit, c'est dans le discours de la chambre haute, c'est soit Jean 14 ou 16, je me rappelle pas, mais il a dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais il va parler de moi, en fait. Il va prendre de ce qui est à moi, il vous l'enseigner, vous le donner. Donc, oui, c'est vrai. Je trouve que dire que l'Esprit-Saint est christocentrique, ben, c'est respecter, à mon sens, ce que la parole de Dieu a révélé au sujet du rôle et de la fonction particulière du Saint-Esprit dans le cadre de la Trinité. Et ça n'offense pas Dieu, je crois, de voir des choses comme ça. De ne pas prier l'Esprit-Saint, mais de prier Jésus ou le Père par l'Esprit, il me semble que c'est cohérent bibliquement. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais quand même, c'était important, je pense, d'aborder ce sujet-là maintenant. Et puis, là, ce que nous allons voir par la suite, c'est ce que la Bible enseigne au sujet du Saint-Esprit, mais dans le contexte de la révélation progressive de Dieu. Et je vous ai présenté ou préparé un petit graphique ici pour aider à comprendre ma démarche et quels ont été aussi les résultats de ma démarche. Dans le cadre de ma préparation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé toutes les occurrences du mot « esprit », hein, simplement « esprit », pas forcément « Saint-Esprit », mais « esprit », dans la Bible. Et là, à travers cela, j'ai noté tous les textes qui se rapportaient spécifiquement à l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez un peu le résultat des recherches ici. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « ruach », là, je me suis plu à l'écrire directement en hébreu et en grec, mais vous allez l'avoir translittéré dans vos notes de cours. Soyez pas inquiets, vous serez capable de lire ces deux mots-là. Je vous dis, c'est une belle occasion pour montrer à quoi ça ressemble en hébreu et en grec le mot « esprit ». Donc, le mot de gauche est en hébreu « ruach » et il apparaît à 378 reprises. Donc, dans l'Ancien Testament, on le voit dans le graphique. Et puis, d'après l'ouvrage de John MacArthur, Théologie systématique, de ces 378 références au mot esprit, hein, et ça peut être beaucoup de sens, eh bien, il serait question du Saint-Esprit dans 79 de ces références-là, c'est-à-dire à peu près une fois sur cinq. Donc, vous avez les chiffres au tableau. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pneuma apparaît 379 fois. C'est seulement une fois de plus que dans tout l'Ancien Testament. Et MacArthur estime que 245, alors là, la proportion vient d'augmenter beaucoup dans le Nouveau Testament, 245 occurrences de ce mot « pneuma » s'appliquent au Saint-Esprit, c'est-à-dire là, trois fois sur cinq. Donc, franchement, la proportion a beaucoup augmenté. Et ça démontre que plus on avance dans la révélation progressive de Dieu, bien plus on découvre de choses à propos de l'Esprit de Dieu. C'est ce que ce tableau-là nous révèle maintenant, c'est ce que nous voyons maintenant. Dans ce qui va suivre, nous allons suivre le plan suivant dans notre exposition de ce soir. Nous allons voir le Saint-Esprit d'abord dans la création. Alors, j'ai suivi la révélation progressive de Dieu. Hein. J'ai regardé ces 378 et 379 versets, je les ai tous regardés un par un, et puis j'ai divisé ça selon la révélation progressive de Dieu dans la création, ensuite dans l'histoire primitive d'Israël, je vais expliquer plus en détail dans quelques instants, durant la période des juges, parce que là, je calculais qu'il avait un rôle majeur, prépondérant, très dominant. Alors, je me suis dit, il faut isoler cette période dans la révélation progressive de Dieu. Ensuite, durant la période monarchique, et là, ça couvre très, très large, parce que quand on parle de la période monarchique, c'est l'ensemble presque de l'Ancien Testament, et on doit inclure des livres historiques, les livres poétiques et plusieurs des livres prophétiques. Alors, c'est l'ensemble des livres, en fait, qui couvre cette période. Elle domine l'Ancien Testament. Et aussi, dans les prophéties. Alors là, ici, je dois admettre que je suis plutôt allé dans un cadre thématique, c'est-à-dire que j'ai comme laissé de côté un peu l'aspect révélation progressive de Dieu, puis je me suis dit qu'il y avait tellement de textes au sujet de l'Esprit-Saint dans les livres prophétiques et dans les prophéties bibliques qu'il faut presque le catégoriser, quoi. Alors, c'est pour ça que je vais le présenter dans une section à part entière. Et puis finalement, dans le Nouveau Testament, mais ce sera aussi sous un angle particulier que nous allons regarder ça ensemble. Allons-y avec, premièrement, le Saint-Esprit dans la création. Eh bien, j'ai vu quatre versets dans le texte de la Genèse, un verset, mais ensuite, j'ai trouvé trois autres versets qui étaient en lien direct avec le rôle du Saint-Esprit dans la création, mais c'est plus loin, en fait, c'est pas tellement plus tard parce que c'est dans la période patriarcale, mais c'est dans le livre de Job. Et je vais vous présenter ça dans quelques instants. Mais on voit d'abord, dès le début de la révélation progressive de Dieu, que le Saint-Esprit est impliqué directement dans le récit de la création et d'une manière un peu, oh, je vais le dire, bizarre. Ben, en fait, pour moi, ça a toujours paru bizarre, peut-être pour vous aussi. Mais je lis ce verset qui nous dit ceci. « Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. » Et puis, moi, comme jeune croyant, pendant longtemps, hein, je voyais un peu de manière graphique ce verset-là, comme si la terre là était formée, et puis qu'il y avait la terre et l'eau, et que, je ne sais pas, quelque part au-dessus de l'océan Atlantique ou un autre, là, on voyait l'Esprit Saint un peu comme voler dans les airs au-dessus, puis il planait, là, je ne sais pas, il flottait au-dessus de tout ça. C'est un peu comme un oiseau, puis je n'arrivais pas à comprendre vraiment qu'est-ce que ça signifiait exactement. Et franchement, pourquoi ce détail? Pourquoi me dire que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de l'eau? Avouez que ça fait bizarre un peu comme verset, quand on voit seulement ça comme ça. Mais en portant une attention plus particulière au verbe qui est traduit par « planer » ici, j'ai découvert que ce verbe-là, en fait, il s'applique bien à un oiseau en général. Mais graphiquement, là, l'image qu'on doit avoir à l'esprit, c'est un oiseau qui n'est pas genre 100 mètres au-dessus de l'océan, au-dessus de l'eau, mais carrément à fleur d'eau. En fait, il touche l'eau du bout de ses deux ailes. Je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, je ne me vois pas du tout, mais bref, avec ses deux ailes, il touche la surface de l'eau. Comme s'il faisait deux sillons, là, comme ça, en planant, en volant, un vol rapide, on dirait, là. Vous voyez l'image que je vois dans ma tête? Ben, le verbe hébreu, c'est un peu ce qu'il communique. Puis ça, c'est dans son sens littéral, hein? C'est un oiseau qui vraiment vole sur la surface de l'eau, et c'est bien traduit, hein, sur la face des eaux. Donc, vraiment, il touche la surface. Mais encore, c'est très beau, ça présente une belle image graphique, mais tout ce que ça change jusqu'à maintenant, c'est que ça a descendu l'esprit de 100 mètres plus bas et ça le ramenait à la face des eaux, parce que moi, avant, je le voyais plutôt à une certaine hauteur, disons 100 mètres. Peu importe. Alors là, je me suis dit, mais franchement, ça ne m'éclaire pas plus. C'est beau, ça, on le voit là faire ce petit... il touche un peu l'eau, et puis c'est magnifique, quoi. Un peu comme quand des canards prennent leur envol, hein. C'est tellement beau voir ça là, à radeau. Là. Mais en fait, au sens figuré, ce n'est pas tous les commentateurs qui vont aller jusque-là, mais au sens figuré, l'idée serait de comme si, encore d'une manière imagée, je ne sais pas si je vais réussir à bien l'exprimer, imaginez que le bout de la plume des ailes qui touche à peine un peu la surface de l'eau, imaginez que c'est un pinceau de finition où un artiste peintre sur un tableau, il fait, tu vois, les dernières touches. Il fait ce qu'on appellerait la touche finale. Ben, au sens figuré, c'est exactement ce que voudrait dire ce verbe-là. Et là, ça commence à avoir du sens. C'est comme si, dans la révélation progressive de Dieu, je découvrais que Dieu le Père a créé par son Fils, hein, comme on a vu dans Colossiens, dans Jean 1, etc., mais la touche finale, elle a été mise par le Saint-Esprit. Et comment peut-on exprimer, mettre la touche finale à l'œuvre de Dieu dans la création? Autrement dit, de donner cette beauté à la création. Ce qui est très, très beau là, dans la création, c'est comme le Saint-Esprit, on va le présenter comme un oiseau qui vole à la surface de l'eau, qui effleure du bout des ailes l'eau et qui est en train de donner un petit peu, voilà, le design final à la création. Je me suis dit, est-ce que ça se peut que ce verbe-là ait cette portée-là? Ben, probablement, parce qu'on a un appui justement dans le livre de Job. Regardez bien ce verset. Par son esprit, le ciel est beau. Moi, je suis tombé à la renverse la semaine passée quand, en fait, ouais, je dois vous avouer quelque chose. C'est que j'ai préparé mon cours d'avance au Canada et quand je suis arrivé ici, j'ai pris tout ça. Je ne l'ai pas jeté à la poubelle, mais j'ai tout tassé ça. Je me suis dit non. Il faut que je refasse mes devoirs parce que là, je vais simplement dire ce que je dis depuis des années sur la pneumatologie. Je veux le faire différemment. On recommence. Et voilà, c'est le fruit que je vous présente ce soir. J'espère que ça va convenir. Mais bref, quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà lu le livre de Job? Moi, franchement, ça doit faire au moins 26, 27 fois que je lis ce livre, puisque ça fait 26, 27 ans que je lis ma Bible en une année. Je n'avais jamais remarqué que ce verset disait que par l'Esprit, on comprend très bien, c'est le Saint-Esprit, le ciel est beau, c'est magnifique. Et je trouve que ce verset-là, il appuie la compréhension figurée du verbe planer dans le livre de la Genèse. Enfin, là, je trouve que tout ça, ça se tient. Dans le même livre de Job, en lien avec la création, on lit ceci, « L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Alors, on voit très clairement que vous n'êtes pas impliqué que dans la création du ciel, de la terre, des belles choses, mais même de l'homme, quoi, de l'être humain. Et le dernier verset qui place le Saint-Esprit dans le contexte de la création, mais disons, on étire un peu, on dépasse même la création, mais on reste quand même dans le contexte de la Genèse, dans les tout débuts, c'est ce fameux verset de Genèse 6:3 où nous lisons ceci. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Ce verset-là intervient tout de suite après le fameux épisode de ces fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes et qui ont corrompu la race humaine. Et le péché était énorme sur la terre à ce moment-là, déjà avec Adam et Ève, bien sûr, et leur postérité. On pense au meurtre d'Abel par Caïn. Mais là, on arrive à un moment, déjà, Genèse 6, où c'est assez. C'est assez. Le péché est allé déjà trop loin, et puis Dieu va détruire l'humanité par le déluge, et c'est ce qui est annoncé ici. Et c'est spécial parce que le verbe « contester », il signifie ce qu'il signifie. J'ai vérifié les sens possibles, mais c'est vraiment le sens que le Saint-Esprit, il argumente avec l'homme. L'homme s'oppose à l'Esprit et l'Esprit conteste. Mais l'Esprit ne va pas contester comme ça éternellement avec une race humaine corrompue par ce qui s'est passé en Genèse 6, 1 et 2. Et voilà, les choses doivent maintenant être arrêtées et se terminer. Et donc, les jours sont de 120 ans et cette période de temps ne se réfère pas à la longévité d'un être humain, mais à la période de temps qu'il reste à l'homme avant le déluge. Alors, c'est la période de construction de l'arche qui va durer 120 ans. Et donc, ce que Dieu annonce ici prophétiquement, c'est que dans 120 ans, le déluge va tomber et cette humanité pécheresse avec laquelle le Saint-Esprit ne contestera pas à toujours va être complètement enrayée. Quand même, on regarde quatre références dans le contexte des premiers chapitres de la Genèse, surtout la création. On en a trois magnifiques en lien avec la création elle-même. Et puis la quatrième, bah, déjà le Saint-Esprit qui s'oppose à l'homme pécheur. Mais ça dit tout, quoi. Ça exprime que depuis le début, l'homme pécheur, c'est un sérieux problème. Je pense que très souvent, nous les hommes, on interprète très mal le péché et on ne sait pas calculer à quel point c'est horrible aux yeux de Dieu. Un autre point qu'on peut regarder avant de la pause qui sera dans à peu près 7 minutes, eh bien, c'est maintenant le Saint-Esprit dans l'histoire primitive d'Israël. Donc, on pense à la période patriarcale depuis Abraham, ça c'est Genèse 12, hein? Alors je laisse de côté toute la période du déluge puisqu'il n'y a pas de référence directe, explicite au Saint-Esprit dans cette partie-là. Mais voilà, il faut se diriger tout de suite vers les patriarches et jusqu'à la conquête. Hein? Alors, ça couvre une bonne partie de l'histoire d'Israël, mais qu'on peut appeler primitive quand même. Donc, d'Abraham jusqu'à la conquête et après, ce sera la période monarchique. Et là, j'ai noté quelque chose d'intéressant, c'est que le Saint-Esprit, durant cette période-là, on voit qu'il est parfois sur les personnes. C'est dit vraiment de cette manière, il est sur les personnes. Est-ce que c'est sur physiquement? Bon, probablement pas. On peut comprendre qu'il est au-dessus ou il les contrôle, il les dirige, je ne sais pas trop, mais c'est présenté comme ça. Il est sur les personnes. Parfois, il est dans certaines personnes. Parfois d'autres, il remplit les personnes. Et là, c'est toujours dans le sens où il les contrôle. Hein. Gardez à l'esprit que quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, ça a toujours le sens de le diriger, de contrôler. Parfois, c'est la personne entière qui devrait être sous cette plénitude, c'est le mot biblique et théologique pour définir ou décrire ce phénomène d'être rempli par l'Esprit. Parfois, c'est certains domaines plus que d'autres. Voilà. Et puis, donc, on voit que le Saint-Esprit, déjà dans la période primitive d'Israël, il remplit certaines personnes, il les dirige, il les contrôle. Et parfois aussi, il les revêt dans le sens de les habiller et au sens figuré, être revêtu de l'esprit ou habillé de l'esprit, ça signifie en fait être caractérisé par quelque chose. Il y a quelque chose qui caractérise une personne qui est revêtue de l'esprit. Parfois, c'est de la force physique, parfois, c'est de la sagesse, parfois, c'est du discernement, parfois, c'est une capacité physique, intellectuelle de bâtir des choses. Voilà, ça peut avoir beaucoup de sens, mais ce qu'on sent toujours à travers ces différentes prépositions, en, sur, ou verbe remplir, revêtir, c'est que l'esprit a un certain impact dans la vie des gens. Et j'ai noté, entre autres, 4 personnes ou groupes de personnes qui sont spécifiquement identifiées ou mentionnées comme étant sous un de ces aspects contrôlants du Saint-Esprit. On a premièrement Betsaleël. Donc, on voit ce personnage qui est doué par l'Esprit de Dieu pour la construction du tabernacle. Vous comprenez qu'avec le temps qui est à notre disposition, on n'ira pas voir les versets, je ne les affiche même pas à l'écran, je peux en mentionner quelques-uns de temps en temps, mais j'ai donné les notes de l'étudiant exactement pour que vous puissiez avoir toutes les références. Ce n'est pas exhaustif à 100%, mais peut-être à 99%. Là, j'ai laissé consciemment peut-être 2 ou 3 références à l'Esprit de côté sur tous les versets qu'on a vus là, qui se référaient au Saint-Esprit dans les Écritures. Alors, ne vous inquiétez pas, à côté de Betsaleël, dans vos notes d'étudiant, si vous les regardez déjà, vous voyez les références sont très, très claires. Alors, lui, c'était... pour la construction du tabernacle, mais franchement, il a été doué par l'Esprit de Dieu d'une façon assez impressionnante. Ensuite, on voit les 70 anciens d'Israël qui vont recevoir du Saint-Esprit la capacité de juger les affaires mineures, civiles, sociales, peut-être même religieuses, du peuple d'Israël en soutien à Moïse. Et puis, Moïse se réjouit que l'Esprit de Dieu soit au contrôle d'autres personnes que seulement lui. Il ne voulait pas l'exclusivité du Saint-Esprit. Je pense que certaines personnes aujourd'hui, ils aimeraient beaucoup ça, avoir l'exclusivité du Saint-Esprit, mais Moïse, ce n'était pas son genre, mais pas du tout. Ensuite, on a Josué. Lui, Josué, il a reçu de l'Esprit-Saint la sagesse pour commander Israël à la suite de Moïse. Là, franchement, il entrait dans de gros souliers. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais waouh, remplacer Moïse. comment on peut remplacer Moïse? Bon, alors il va continuer le ministère de Moïse et recevoir de l'Esprit-Saint ce qui est nécessaire pour y arriver. Et finalement, surprenamment, Balaam. Balaam est présenté dans l'Écriture comme étant quelqu'un qui a parlé par le Saint-Esprit. Bon, disons tout de suite, ça, c'est un faux prophète le gars, mais en fait, il a été obligé de dire ce que l'Éternel lui a dit de dire. En fait, c'est par le Saint-Esprit qu'il a dit, malgré lui, ce que l'Éternel avait décidé dans un cas spécifique. Ça, c'est dans Nombre 24. Donc, c'est impressionnant de voir ce qui se passe avec Balaam. Donc, déjà là, avec ce qu'on voit, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la création. Le Saint-Esprit, il conteste avec l'homme, mais pas pour tout le temps, tout début de l'humanité. Et après le déluge et au début de l'histoire d'Israël, on le voit donner des capacités particulières à des hommes, soit pour construire, soit pour diriger, ou alors même soit pour proclamer le message de Dieu, même si tu n'es pas d'accord. C'est assez impressionnant de voir ce rôle-là. Je m'arrête déjà ici pour le moment de questions.
Merci Gilles pour cette première partie d'exposé. Donc, comme vous le savez, nous terminons cette première partie de session par un temps de questions et réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à nous les partager dans l'onglet Q&A que vous trouvez en bas de votre écran, au milieu. Donc, la première question que nous avons, c'est: est-ce que le terme hébreu Elohim, nom pluriel, Genèse 1:1, est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit?
Oui, on avait parlé de ça dans le dernier cours, il me semble. J'ai évoqué rapidement que le nom Elohim est un nom pluriel. Et puisqu'il y a des noms singuliers et duels, c'est-à-dire un et deux, le pluriel, par définition, pourrait inclure ou être défini comme incluant au moins trois éléments et dans ce cas-ci, trois personnes. On ne peut pas faire reposer toute la théologie de la Trinité sur cet argument parce qu'il est contesté quand même, puisqu'on voit aussi parfois des noms pluriels en hébreu définir deux éléments. Alors, il semble que même le pluriel peut servir de duel, parfois, si je peux le dire ainsi. Alors, sans être trop dogmatique, déjà, le nom de Dieu annonce d'une façon très claire qu'il y a plus qu'une personne dans le caractère même ou dans la révélation de Dieu, je devrais dire. Mais on ne peut pas tout faire reposer uniquement sur le nom Elohim.
Merci Gilles pour cette réponse. Une autre question qui concerne le fameux passage de Genèse 6 où il est parlé des fils du Dieu vivant. Pardon, les fils de Dieu, pas les fils du Dieu vivant, c'est les fils de Dieu vire au verset 2 de Genèse 6. Et puis là, une question: qui sont ces fils de Dieu? Alors, je ne sais pas si la personne qui pose la question imagine qu'il y a peut-être un rapport avec le Saint-Esprit, mais qui sont les fils de Dieu?
Ben, c'est parce que j'ai évoqué le contexte de ce passage avec le verset 3. Donc, c'est peut-être, oui, c'est un texte qui retient l'attention de beaucoup de
Oui,
gens. Alors, c'est
c'est
peut-être qui
avant,
a mis ça.
effectivement, mon esprit ne contestera pas toujours.
Exactement, c'était le verset 3 et l'épisode dont on fait référence se passe tout de suite avant. Est-ce que je pourrais, je ne sais pas qui pose la question, mais est-ce que je pourrais reporter la réponse au prochain cours Biblos? Je vais m'attarder sur ce passage-là en détail avec l'appui d'autres textes de la révélation progressive de Dieu. Le prochain Biblos est sur le monde invisible, c'est-à-dire les esprits, les démons, les anges déchus, etc. Donc, si vous me permettez, je reporte cette réponse à dans 2 semaines.
Oui, volontiers, tout à fait. Et puis une question intéressante aussi sur la question de Balaam, que tu as mentionné comme ayant été aussi saisi par le Saint-Esprit. Peut-on se servir de l'histoire de Balaam et conclure que le Saint-Esprit peut utiliser même un incroyant pour atteindre un objectif divin?
Absolument. Et Dieu lui-même, sans qu'on ait besoin de le décortiquer, si je peux dire, en trois personnes, mais Dieu lui-même fait ça très souvent dans sa révélation progressive. Alors, il a utilisé Cyrus, il a utilisé Nébuchadnezzar, il a utilisé des pharaons d'Égypte, il a utilisé plusieurs personnes non-croyantes, dans ce cas-ci, par l'Esprit de Dieu même, pour l'aboutissement de ses plans souverains. Bien sûr, toute la terre est à lui et tous les hommes sont sous son contrôle dans un certain sens.
Merci. Et puis on va prendre cette dernière question. Je suis pas sûr de bien comprendre comment elle est formulée. Donc, avant le déluge, il est dit contester avec l'homme en général, pas avec les hommes sur la terre à ce moment.
Je n'ai pas le texte hébreu devant moi tout de suite, mais j'ai le sentiment que si c'est dit comme ça, simplement parce que c'est une référence à l'être humain, tout simplement. Donc,
Voilà.
l'être humain implique dans ce sens-là ben, tous les hommes. C'est comme si
Exactement.
on disait, en français, on aurait peut-être dit, je ne contesterai pas avec l'humanité constamment, tu vois.
Oui. Et puis, bon, la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Pourquoi pas le changement de durée de vie en général au futur. Après le déluge, la durée de vie diminue et aujourd'hui, des scientifiques ont dit que génétiquement, l'homme est fait pour vivre jusqu'à 120 ans, même
Oui.
si les maladies et autres enlèvent l'homme bien avant. Et puis, avec un clin d'œil, sauf Jeanne Calment, pour ceux qui se rappellent de cette dame française qui a vécu longtemps.
Oui. Écoutez, Moïse, si je ne fais pas trop erreur, il exprime plutôt que la durée de la vie d'un homme, normalement, c'est à peu près 90 ans, quand il vit vieux, quoi. Dans le Nouveau Testament, quand le mot vieux est utilisé, ou vieillard, mais vieux, ouais, c'est Nicodème, en fait, qui l'utilise le terme, on sait, d'après les écrits grecs classiques, que le mot vieux se réfère à une personne entre 60 et 80 ans. Je suis désolé pour tous ceux qui sont dans cette fourchette d'âge. Je viens de dire qu'ils sont tous des vieux. J'ai 53, j'ai 53, je ne suis pas rendu là. Mais je rigole bien, non, mais ça dit quelque chose qu'en bout de ligne, ouais, être vieillard comme Paul l'entend, c'était dans la soixantaine, quoi. Alors, il faut comprendre que le 120 ici n'a rien à voir avec la durée de la longévité, en fait, de l'être humain, mais c'est la période qui restait avant que la Terre soit détruite par le déluge.
Merci pour cette précision qui, pour ma part, m'avait longtemps échappé. Et puis, une question, bon, ça anticipe peut-être ce que tu vas nous dire après, mais on va quand même prendre cette question puisqu'elle est posée maintenant. Et puis, on terminera avec celle-ci. Y a-t-il un discours direct de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament? Comme on le voit dans Acte 13, où le Saint-Esprit dit « Je ».
Oui. En fait, ces références-là sont toujours, à ma connaissance, sont toujours à un texte écrit d'un prophète ou à un message verbal communiqué par un prophète. Donc, à ma connaissance et avec le survol que j'ai fait la semaine passée, ce n'est pas que l'Esprit Saint s'exprime audiblement de par lui-même de manière intrinsèque, là, ou ouais, isolé, un peu comme Jésus, homme sur terre, parlerait ou dans sa révélation, sa glorification, c'est-à-dire il parlerait. À mon sens, c'est constamment lié à soit un message verbal d'un prophète, même si c'est dit je, ou alors par les écrits des prophètes. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure des textes qui parlent de l'Esprit Saint qui s'exprime, mais par les prophètes.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Gilles, pour cette première session. On va profiter d'un temps de pause que je vous propose de faire jusqu'à 21h05, heure à laquelle nous reprendrons la suite. Alors, bonne pause à toutes et tous.
À toutes.